chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Donc, bienvenue à ce deuxième épisode de 2026 du balado de la DSI, Savoir et Stéthoscope. Donc, vous êtes avec vos animatrices Julie Blanchette.
Et Sophie Martin.
Alors, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, mais en contexte de soins infirmiers. Et pour explorer concrètement cette thématique actuelle et captivante, on a le plaisir d'accueillir avec nous en studio d'abord Charles Bilodeau, qui est infirmier clinicien et professeur adjoint à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, où il est responsable du comité sur les intelligences artificielles dans les programmes de sciences infirmières. Il est également chercheur universitaire clinicien au Centre de recherche du CHU. Et on accueille aussi William Tessier, qui est infirmier clinicien et chargé de cours à l'École des sciences infirmières aussi de l'Université de Sherbrooke, de même que candidat au doctorat en recherche en sciences de la santé à l'université. Donc, William collabore sur différents projets qui entourent l'intelligence artificielle en contexte de formation et il s'intéresse aussi à l'intégration de l'IA à l'urgence. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, si on parle de l'IA, c'est
intelligence artificielle.
Donc, Charles et William, salut à vous deux.
Bonjour.
Salut, enchanté.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
En novembre 2025, on avait reçu en studio Mme Joanne Martel pour l'épisode numéro 8 intitulé « Penser autrement la communication d'information ». Comme dernier sujet dans cet épisode, nous avions abordé brièvement sa passion pour les présentations multimédia, comme celle élaborée avec PowerPoint. Elle nous avait donné quelques conseils pour ceux et celles qui utilisent ce moyen de présentation pour transmettre des informations. Sachez que depuis janvier 2026, son livre intitulé « Penser autrement » combiner la science, le design et les émotions, est disponible dans certains points de vente, dont à la coopérative de l'Université de Sherbrooke, mais aussi sur le site officiel de Mme Martel à www.présenterautrement.com. Alors que vous soyez professeur, chercheur, formateur, professionnel, cadre ou étudiant, nous vous conseillons ce livre pour vous permettre de créer ou rafraîchir vos présentations en organisant et structurant mieux vos idées avec clarté, afin de mieux capter l'attention de votre auditoire et de les inspirer à passer à l'action.
Donc, est-ce que vous saviez qu'environ 87 % des établissements de santé au Canada utilisent déjà des outils d'intelligence artificielle, notamment pour gérer des dossiers, analyser des données ou soutenir des diagnostics? Or, selon un sondage réalisé au Québec entre octobre 2023 et février 2024, c'est seulement une infirmière sur 10 qui disait utiliser ou avoir utilisé l'IA dans le cadre de son travail. C'est une majorité, là, 72 % qui montrait un niveau de confiance moyen, plutôt faible ou même très faible envers l'IA. Donc, autrement dit, l'IA est déjà là, mais n'est pas encore entrée dans pratique infirmière avec confiance. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Alors, messieurs, quand on parle d'intelligence artificielle en santé, de quoi parle-t-on exactement?
Très bonne question. Pour simplifier, là, l'intelligence artificielle, premièrement, c'est un terme qui existe depuis très longtemps. On pense que c'est récent, mais ça remonte aux années 50 au moins. C'est l'ensemble des dispositifs informatiques et électroniques qui vont être capables d'imiter certains processus cognitifs humains. Leur force, ça va être qu'ils sont capables de traiter là, vraiment d'énormes quantités de données de façon très rapide pour en tirer des résultats exploitables. Donc, on pourrait penser en santé à des dossiers de patients qui peuvent être analysés en quelques secondes pour détecter des tendances qu'un humain, lui, pourrait mettre des jours à identifier.
Oui, exactement. Puis, super important de faire la différence entre une intelligence artificielle et une intelligence artificielle qui est générative. Charles, tu pourras en parler juste un petit peu après, là. Mais à chaque fois qu'on a un système d'aide à une décision clinique, comme par exemple le triage à l'urgence, à chaque fois qu'il y a des règles qui sont programmées à l'avance, bien ça, c'est un type d'intelligence artificielle. Mais c'est des systèmes qu'on va dire classiques. Ça se distingue vraiment de l'IA générative. Je ne sais pas si tu peux en parler, Charles.
Oui, effectivement. Bien, l'IA générative, ça fait beaucoup parler là, dans les dernières années. C'est l'IA qui va être capable de produire du contenu. Donc, produire du texte, répondre à des questions qui vont être formulées, les réponses en langage naturel. Alors là, on va penser aux agents conversationnels plus généralistes comme Copilot, ChatGPT, pour ne pas les nommer. Mais plusieurs d'entre vous les connaissez déjà. Là, c'est à cause d'elles, je dirais, qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis les quelques dernières années.
ça commence à être plus concret. Mais j'imagine que plusieurs infirmières se posent la question, est-ce que ces outils comprennent vraiment ce qu'ils font? Est-ce qu'ils pensent comme nous?
En fait, non. C'est-à-dire que ces modèles-là ne vont pas comprendre le contexte clinique comme une infirmière pourrait le faire. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de reconnaître des patterns, qu'on va dire, dans les données, et ils vont être capables de calculer des probabilités. Donc, des réponses qui sont basées sur ce qu'ils ont vu, là, je dis « vu » entre guillemets, évidemment, pendant qu'on les a entraînés sur des milliards et des milliards et des milliards de données. Mais ils n'ont pas d'intuition clinique, ils n'ont pas de vécu, ils n'ont pas d'expérience professionnelle et ils n'ont pas non plus de responsabilité professionnelle.
Oui, ça, c'est un point qui est extrêmement important, là. Tout ce qui est responsabilité professionnelle, ce n'est pas une personne en soi. Donc, souvent, ce que je vais entendre, c'est des personnes qui vont dire « Ah, l'intelligence artificielle m'a dit que l'intelligence artificielle ne pense pas, n'a pas de jugement. » Donc, c'est super important de... en tant que professionnel, d'être capable de mobiliser notre propre jugement, notre propre expérience, d'être capable de lire entre les lignes, de prendre en compte tous les éléments du contexte. Et ça, ça fait une grosse différence pour être capable d'avoir une réponse par l'intelligence artificielle qui va être beaucoup plus précise et adaptée au contexte clinique, là.
Donc, si je résume, l'IA, c'est un outil qui est puissant pour traiter des informations, mais ça reste donc un outil. Ça ne remplace pas le cerveau, puis encore moins le cœur d'une infirmière ou d'un infirmier.
Bien, exactement. Comme William vient de dire, là, c'est vraiment l'infirmière hein, qui connaît son patient, qui va être capable de voir l'ensemble du tableau clinique, qui va être capable aussi d'intégrer les préférences du patient puis de sa famille. Ça, l'IA ne sera pas au courant de ces informations-là. C'est elle aussi qui va décider qu'est-ce qu'elle doit surveiller en priorité, comment intervenir, quand est-ce qu'elle doit escalader une information. Et comme je disais tantôt, ultimement, c'est elle qui porte la responsabilité professionnelle. Ça ne sera jamais l'IA. Donc, l'IA, oui, peut être un outil d'aide, mais pas de remplacement. Le jugement clinique demeure irremplaçable, même en contexte d'utilisation de l'IA.
Puis moi, je réfléchis beaucoup en matière de responsabilité professionnelle. Admettons que, justement, peut-être vous n'avez pas la réponse, c'est peut-être trop encore tôt précoce pour en parler, mais vous savez, je m'intéresse beaucoup au sujet de la responsabilité professionnelle. Donc, advenant justement où un médecin ou une infirmière utilise un outil, donc générateur, comme par exemple l'IA générative, oui. Si je ne me trompe pas, et que là, bon, il décide de s'en tenir à ça, et là, découle un préjudice quelconque, on se ramasse en litige... C'est la responsabilité de qui? Du système ou du professionnel?
Mais là, c'est intéressant parce que de plus en plus, justement, on va avoir des suggestions, en fait, des propositions qui vont être en apparence très, très cohérentes par l'intelligence artificielle générative. Donc, dans un certain sens, on va se rendre compte que bien, cette personne-là, c'est pas une personne, là, mais l'intelligence artificielle semble être une personne qui maintenant prend part aux décisions cliniques. Donc, elle fait maintenant partie de l'équipe interdisciplinaire ou de l'équipe infirmière. Donc, il faut un peu repenser la façon qu'on va travailler avec cette idée-là. Comment qu'on la challenge? Est-ce que c'est une intelligence augmentée, tout simplement? Donc, c'est une proposition, puis on vient la soumettre à un challenge de nos propres idées? Ou est-ce qu'on la prend à l'aveugle, puis finalement, on accepte que ça va être la décision qu'on va suivre? Donc, puis je donne un peu la réponse, là, mais il faut vraiment voir l'intelligence artificielle générative comme une intelligence qui est augmentée, donc qui nous aide à prendre des décisions, mais qui ne la remplace pas.
Donc, l'intelligence artificielle ne remplace pas le jugement clinique. Est-ce que tu voulais rebondir sur ce qu'il vient de dire?
Bien, en fait, peut-être pour répondre à ton interrogation, Julie, au niveau déontologique, hein, nos obligations déontologiques encadrent déjà quand même assez bien ce qu'on va faire avec l'IA. C'est-à-dire qu'on est imputable de nos décisions, qu'elle soit appuyée par l'IA. Dans ce cas-ci, on peut voir l'IA comme un outil qui a accéléré l'acquisition de l'information qui était nécessaire à notre prise de décision. Mais ça revient exactement au même que si j'étais allé faire une recherche sur Internet, que si j'avais utilisé d'autres sources de données. Là, l'IA me dit quelque chose, la décision qui en découle, bien... J'ai la responsabilité de ces décisions-là.
Plus précisément, là, pour les infirmiers et infirmières, on réfère à l'article 21 donc, du Code de déontologie en matière d'indépendance professionnelle, comme quoi que le professionnel se doit de maintenir son indépendance et de faire abstraction à toute intervention de tiers. Et là, j'inclurais même l'IA dans la définition de tiers, même si elle n'a pas la personnalité juridique, finalement, sur la prise de ces décisions cliniques.
Mais tu sais, là, on parle d'outils. Avec les statistiques qui ont été nommées au début de l'épisode, là, peut-être qu'il y a plusieurs infirmières et infirmiers qui voient ça comme des outils compliqués. On a déjà assez de travail, tout ça, mais comment ça peut être utile dans notre pratique au quotidien, puis peut-être de ne pas le voir justement comme une complexité de plus là, dans notre quotidien?
Oui, c'est un gros défi là, dans notre travail. On est constamment surchargé. Je vais vous donner plusieurs exemples. Déjà, juste l'accumulation d'une d'une tonne d'informations. Quand on arrive dans une démarche clinique, qu'on collecte des données auprès de notre patient, bien, ça prend un processus ou ça prend un certain temps à agréger ces données-là puis arriver avec un constat clinique. Donc, faire notre hypothèse clinique, arriver à un jugement clinique, ça prend un certain temps. Là où ce que ça peut accélérer notre travail, c'est justement cette synthèse des données-là, d'arriver à des conclusions ou des propositions pour nous, d'arriver également avec des propositions de plans de soins. Là, il y a vraiment un gain de temps qui peut être significatif. Encore une fois, quand c'est vu comme une intelligence qui est augmentée. Donc, des propositions qui sont soumises ensuite à une validation par la personne infirmière. Dans un deuxième temps, là où est-ce que ça peut être utile, puis on voit déjà que c'est utilisé beaucoup chez les médecins déjà, mais tout ce qui est rédaction de notes. Là où ce que je veux faire attention, par contre, c'est que la rédaction de notes, c'est une accumulation des informations qui ont été collectées. Donc, si notre démarche de soins n'est pas adéquate, si on n'a pas collecté les informations, mais la note va rester incomplète. Donc, je mets un petit bémol ici. Là. Oui, on peut gagner du temps, mais tout de même, reste qu'on a une responsabilité infirmière qu'il ne faut pas déduire.
Puis par rapport à la note, je pense beaucoup aux inférences, aux hallucinations. Dans le fond, pourriez-vous, en quelques mots, nous dire c'est quoi les inférences, des hallucinations générées par l'IA?
Bien, en fait, les hallucinations générées par l'IA, il y en a de plusieurs types. C'est-à-dire qu'il peut avoir des erreurs complètement factuelles. Donc, l'IA va donner une information qui est fausse, qui est basée sur des faits erronés. Des fois, il va avoir carrément du contenu qui est fabriqué. Si on en voit de plus en plus circuler sur Internet. Et il peut avoir aussi des erreurs de raisonnement. Donc, puis quand je dis raisonnement, encore une fois, je dois le mettre en guillemets parce que l'IA ne raisonne pas vraiment, mais ça s'apparente à une erreur qu'on pourrait appeler de raisonnement. Et c'est basé sur la manière, encore une fois, dont l'IA fonctionne. Hein. L'IA est entraînée sur des données et à partir de ces données-là, va, en fonction d'une distribution de probabilités, fournir la réponse la plus probable. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réponse qui est exacte, que c'est celle qui est la mieux adaptée au contexte, que c'est celle qui prend en considération l'ensemble des particularités. Donc, c'est beaucoup dans ce contexte-là, notamment en santé, là, qu'on va voir ce type d'hallucination-là. Alors, nous, on doit y faire attention, mais je dirais, puis on pourra en reparler, mais les patients qui, eux aussi, vont utiliser l'IA, mais on va devoir leur apprendre à faire cette même utilisation réfléchie et critique de l'IA que nous, on en fait pour détecter ce type d'hallucination-là.
Puis quand on parle d'inférence, de ce que j'ai compris, c'est quand que l'IA va nous rajouter quelque chose finalement qu'on lui a pas demandé finalement d'écrire.
C'est possible, effectivement.
Oui. J'ai fait des tests dernièrement là, pour des notes plus au niveau examen physique versus examen mental. Puis, un exemple, il me disait à la fin de ma note, patient dit avoir bien compris et consent. Alors que je ne lui ai jamais écrit ça. Là. Mm-hmm. Il a interprété ça, il a inféré ça finalement.
Parce que dans sa suite logique sur l'apprentissage qu'il a fait, bien, habituellement, c'est la prochaine étape.
Exact.
Donc, lui, il va l'ajouter. En pensant souvent, les IA, hein, ce qu'elles veulent, c'est qu'on continue d'interagir avec elles, qu'on nous plaire également, répondre à un besoin qu'elles voient là, dans ce qu'on leur a demandé. Alors, c'est tout à fait logique, d'une certaine façon, pour l'IA de vouloir aller plus loin. Donc, d'où l'importance d'effectivement poser un regard et bien prendre le temps de bien voir qu'est-ce qu'elle me produit comme réponse.
Et en passant, si j'accepte cette suggestion-là qui m'a été faite alors que je n'ai pas validé, par exemple, le consentement de la personne, ça constitue de la fausse information en vertu de notre code de déontologie.
Donc, tu sais, vous parlez, c'est ça, on a parlé au niveau du jugement clinique, tout ça, mais au niveau donc de la documentation, là, ça peut être utilisé, là, l'IA.
Oui, effectivement. En fait, l'IA, on peut l'utiliser à différents égards. Puis là, ça dépend toujours du milieu clinique dans lequel on se trouve, les outils qui sont disponibles pour soutenir. Mais l'IA peut être un très bon outil pour aider à structurer une note, pour aider à organiser des contenus, proposer des formulations, là, éclaircir certaines formulations, des choses comme ça. Mais encore là, ça ne veut pas dire qu'elle va écrire, qu'elle va documenter à notre place, mais elle peut venir accélérer le processus, donc réduire un peu le fardeau administratif.
Mais comme je disais, gardons en tête, un potentiel vient aussi avec un risque. Puis on en a parlé, donc oui, on gagne du temps, mais notre rôle professionnel, c'est justement... Quand on prend le temps d'écrire une note infirmière, bien, c'est un moment privilégié où on donne du sens à toutes les données qu'on a collectées. Donc, c'est un moment qui est essentiel pour le raisonnement clinique. Donc, c'est quelque chose qu'on va perdre potentiellement là, avec l'intelligence artificielle. Donc, gardons ça en tête. Oui, il y a un potentiel gain de temps, mais il y a aussi un risque pour notre raisonnement clinique là, si on s'en soumet trop.
Donc, gardons vigilance et potentiellement, on a un peu moins de temps à l'ordinateur et plus de temps au chevet des patients.
Soins sécuritaires, déontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme professionnel en soins infirmiers, d'utiliser Copilote de la suite Microsoft 365 du réseau de la santé et des services sociaux pour me soutenir dans ma documentation, comme pour m'aider à structurer ma note avec des méthodes mnémotechniques telles que SOAPI et assurer une correction de mes erreurs orthographiques? La réponse est oui. Il est possible d'utiliser le copilote du réseau de la santé et des services sociaux pour soutenir votre documentation clinique, mais sous réserve de conditions et de précisions. À l'heure actuelle, des travaux sont en cours, notamment à la table nationale des DSI, afin d'élaborer des orientations et mettre en place un encadrement clair concernant l'utilisation de l'IA en pratique clinique, incluant la documentation en soins infirmiers. Dans ce contexte, la DSI de notre établissement reconnaît pour le moment que l'utilisation de Copilote de la suite Microsoft 365 du réseau est accessible à partir de votre compte professionnel SUSHUS. Nous tenons à faire la mise en garde à l'effet que la documentation infirmière ne sert pas uniquement à répondre à une exigence administrative. Elle fait partie intégrante de votre raisonnement clinique et vous aide à structurer votre pensée, mettre en évidence les observations importantes et regrouper l'information pertinente pour appuyer vos priorités d'intervention. À titre de rappel que votre note constitue le reflet de votre pratique professionnelle et doit, à ce titre, rendre compte de manière fidèle, exacte et complète la réalité clinique en faisant foi de votre démarche clinique. Nous vous invitons à consulter la section « Documentation en soins infirmiers » dans les outils cliniques, section « Pratique professionnelle en soins infirmiers » de l'intranet pour lire le bulletin d'information de la DSI à cet effet.
Quand j'écoute l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les soins infirmiers, je me dis, hey, c'est presque trop beau pour être vrai. C'est fascinant, toujours, comme on dit, en gardant une certaine vigilance, hein, parce qu'il peut y avoir des risques, des pièges dans lesquels on pourrait tomber. Parlez-nous, là, avec votre expertise, pouvez-vous nous dire là, des exemples concrets d'utilisation de l'IA qui pourrait être faite dans les milieux de soins, là, puis tout ce qui entoure là, cette utilisation-là?
Oui, les applications, quand on regarde ailleurs dans le monde, il y a des applications absolument incroyables qui se font. Quand on parle, par exemple, de réanimation cardiaque, on voit qu'il y a des défibrillateurs qui peuvent analyser le vecteur électrique qui a été envoyé, donc la décharge électrique qui est envoyée lors d'une défibrillation. Puis on est capable d'estimer, bon, est-ce que c'était une décharge qui s'est rendue, par exemple, aux symptômes interventriculaires ou non? Puis par la suite, l'intelligence artificielle est capable de nous proposer un vecteur différent. Donc, par exemple, si on était en antéro-latéral, on pourrait changer pour un vecteur antéro-postérieur pour essayer d'avoir une décharge qui se rend davantage là, au niveau du cœur. Donc, ça serait un exemple d'application concret. On le voit aussi beaucoup avec des alertes cliniques, là, avec tout ce qui est pompe volumétrique. De plus en plus, on a des alertes qui nous indiquent bon, quel est le potentiel de détérioration clinique d'un patient selon le médicament qui est administré en temps réel. Fait que ça, c'est des applications réelles. Puis quand on sort un peu des milieux cliniques, qu'est-ce qu'on voit aussi chez des personnes, par exemple, qui sont plus impliquées dans des projets cliniques? Bien, c'est que si je me pose une question, quels sont les soins les plus adéquats à donner à une personne? Je vais vouloir me baser sur des données probantes. Donc, l'intelligence artificielle est capable de rapidement me donner des mots-clés rapides pour être capable d'avoir une littérature abondante là, qui est adéquate puis qui me permet d'avoir des bonnes données. Là.
Puis, quand on regarde qu'est-ce qui est le plus mûr, je dirais, là, en termes d'innovation puis d'application d'IA là, qu'on pourrait voir se déployer très prochainement dans nos milieux cliniques, on en a parlé rapidement, mais c'est les outils de scribe médical là, pour la transcription, mais également les outils d'appui pour le triage à l'urgence. Là. Donc, c'est beaucoup ça là, que les études documentent actuellement en termes d'efficacité. Là.
Ouais, d'ailleurs, pour le triage, ce qu'on voit beaucoup, c'est des cas de prédire en fait la trajectoire du patient. Donc, quand je trie le patient, c'est beau d'avoir une cote de triage, mais je ne veux pas juste avoir une cote qui est adéquate, je veux être de prédire quelle sera sa trajectoire. Donc, quel est le potentiel que ce patient-là se rende aux soins intensifs ou non? Si je suis capable d'identifier en fait des patterns chez certains patients qui finissent souvent aux soins intensifs, bien rapidement, peut-être que j'aurai tendance à projeter une cote P2 ou P3 à ce patient-là au lieu de P4. Là.
Nous, c'est sûr, Julie et moi, dans notre pratique, ben là, on s'adapte à l'arrivée de l'IA, mais les jeunes infirmières auxiliaires là, qui commencent leur pratique directement avec ces outils-là, est-ce que ça l'occasionne, selon vous, peut-être des enjeux supplémentaires? Est-ce qu'elles se reposent un peu trop sur l'utilisation de ces outils-là?
Bien, c'est sûr que ça, c'est une question qui me touche beaucoup, je dirais, en tant que professeur, là, au niveau de la formation de la relève et leur arrivée là, dans les milieux, comment nous, on va les préparer à avoir cette utilisation-là. Donc oui, je pense qu'il y a quand même des zones de vigilance importantes. Ça a été mentionné, là, mais le risque un peu de surestimer la fiabilité des réponses que l'IA va générer. Hein, parce que tout le monde qui a déjà utilisé un outil d'IA, on le voit, les réponses sonnent très convaincantes à première vue, très professionnelles également, mais on le dit, elles peuvent contenir des erreurs factuelles, des recommandation inappropriée dans un contexte spécifique. Alors, nous, du côté des milieux de formation, je dirais notre rôle, c'est beaucoup d'amener les étudiants à poser un regard critique sur la qualité de l'information. De la même façon qu'on le ferait avec l'évaluation de données probantes issues d'un article scientifique, bien, on doit garder, appliquer la même démarche lorsque des données sont générées par des outils d'intelligence artificielle.
Bien, moi, c'est un peu ma crainte. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes, là, mais tu sais, souvent dans les recherches, il y a certaines populations qui vont être un peu, je veux dire, sous-estimées. Là. Tu sais, je pense, par exemple, aux populations immigrantes, pour dire de quoi, OK? Ou encore aux populations, je ne sais pas, moi, qui font partie de la communauté LGBTQ+, là, et compagnie. Fait est-ce que, justement, les... Tantôt, on disait que l'IA se génère une espèce d'algorithme à partir de ces données-là, mais il n'y a pas un risque, justement, de sous-estimer, finalement, les risques de ces clients. Oui, la sous-évaluation de ces clientèles-là.
Absolument. Donc, il faut regarder qui entraîne ces systèmes d'intelligence artificielle. Si on entraîne des systèmes d'intelligence artificielle avec des données, principalement dans, par exemple, le contexte occidental, avec des personnes, des hommes, personnes blanches, avec des problèmes de santé qui sont similaires, bien, quand on arrive devant une pathologie ou une personne clinique qui a une présentation atypique, bien là, on se retrouve avec une intelligence artificielle qui n'a peut-être pas le détail ou le souci, en fait, de voir ces subtilités-là. Fait que oui, c'est un risque, absolument. Et je rajouterais le danger, quand on commence à avoir des informations qui ne semblent pas pertinentes pour le patient, on pourrait avoir tendance à lui soumettre plus d'informations par rapport à cette personne-là. Donc, vient un enjeu en ce qui a trait là, à la confidentialité des données. Donc, si je rentre des données comme l'âge du patient, son nom, il vient de quel endroit, donc tout ça m'amène à un enjeu en termes de confidentialité de données. Puis ça aussi, c'est un risque là, à ne pas sous-estimer. Donc, mise en garde, vigilance, là, certainement.
Bien, je veux qu'on en parle, la confidentialité des données, hein, parce que, tu sais, en lien avec la documentation infirmière, beaucoup, c'est ce qui me vient en tête. Tu sais, souvent, on dit, il faut permettre... admettons au patient de prendre une décision libre et éclairée. Mais tu sais, libre et éclairée par rapport à quoi? Est-ce que présentement, là, comme professionnel, on est suffisamment nous-mêmes éclairés pour être capable d'expliquer quels sont, exemple, les principaux risques potentiels avec une certaine certitude au patient?
C'est une très bonne question. Puis en fait, ça dépend de l'utilisation qu'on va faire de l'outil d'IA. Premièrement, si c'est un outil d'IA qui a passé à travers le processus d'approbation de l'établissement et qu'on considère qu'il respecte les normes de sécurité pour la confidentialité des données, bien, je pense qu'à ce moment-là, on peut le voir comme étant un outil de travail comme un autre. Donc, est-ce qu'on demanderait le consentement libre et éclairé d'un patient pour utiliser un dossier clinique?
Informatiser quelconque.
Informatiser quelque chose comme ça? Non. Alors, à ce moment-là, l'utilisation de l'IA... Je ne pense pas qu'elle doit... C'est bien de faire preuve de transparence, à mon avis, mais est-ce qu'elle doit nécessiter un consentement? Peut-être pas. Dans d'autres cas, par exemple, où vraiment on va utiliser l'IA pour nous suggérer des recommandations, nous aider dans la formulation peut-être d'un plan de traitement, que ça va venir changer notre réflexion clinique, bien là, à ce moment-là, je pense que ça devient important de mentionner aux patients que l'IA a participé d'une manière ou d'une autre ou a été utilisée, à tout le moins, là, dans le cadre de notre réflexion.
Ouais.
À mon avis, c'est une bonne pratique.
Je disais un sondage dernièrement réalisé par le Collège des médecins en 2025 là, qui disait que c'était, j'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est quasiment 65 % des patients qui n'ont pas confiance en leur médecin qui utilise l'IA finalement pour prévoir des recommandations ou traitements. Là. Ça, c'est en 2025. Là,
exact. Bien, il faut faire bien attention encore là de comment c'est apporté, je pense, aux patients. T'sais, si on dit que l'IA est utilisée simplement pour des applications, certaines des applications que William parlait de synthétiser les informations, regrouper tout ça, mais que tout le processus de diagnostic, dans ce cas-ci, là, quand on parle des médecins, demeure personnel là, ou humain, en fait, bien, je pense que déjà les patients seraient plus à l'aise avec l'utilisation d'une certaine forme d'IA en clinique. Mais ce qu'on leur présente souvent, c'est très sensationnaliste, là, par rapport à l'IA. Alors, je peux comprendre qu'il y en ait qui a des craintes par rapport à ça, définitivement.
Et c'est important de garder en tête, en fait, qu'est-ce qui fait la force des soins infirmiers. Là? On a de plus en plus des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle comme soutien psychologique, par exemple, pour poser des questions. Comment je me sens? Est-ce que je peux avoir des outils ou des recommandations, de l'aide? L'enjeu avec ça, en fait, c'est que les réponses qui vont être données par l'intelligence artificielle peuvent sembler, en apparence, très, très empathiques, très gentilles. Mais la personne, comme je vous disais, c'est pas une personne, là, c'est une intelligence artificielle, donc c'est des statistiques. C'est la réponse que vous vouliez entendre qu'on vous donne. Fait que ça peut être un enjeu, peut-être une peur pour certains patients. Donc, comment vont être interprétés tout ce que je vais dire à l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va refléter réellement ma situation clinique? Donc, ce qui fait la différence, c'est, comme infirmier, bien, notre jugement clinique, la sensibilité des informations qu'on va traiter, le regard, le toucher thérapeutique, tous ces éléments-là, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas le simuler. Donc, c'est un autre élément de vigilance.
Puis, peut-être une autre chose, moi, que je soulèverais, surtout lorsqu'il est question d'utilisation d'intelligence artificielle générative grand public, donc par des infirmières ou des infirmières auxiliaires. Alors là, c'est là qu'on pense à nos fameux ChatGPT, pour ne pas le nommer. Mais il faut se rappeler que ChatGPT, c'est développé par OpenAI, qui est une compagnie non seulement américaine, là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, il y a des questions à se poser à ce niveau-là, mais des compagnies privées qui, eux, leur objectif, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas de fournir l'information la plus précise à un professionnel de la santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. C'est de faire de l'argent. Alors, c'est d'augmenter l'interaction, de s'assurer qu'on reste en interaction toujours avec cette intelligence artificielle-là. Il faut garder ça en tête que ces outils-là ne sont pas conçus à la base pour des usages cliniques. Ils peuvent être pertinents. On se rend compte qu'ils ont des applications intéressantes dans certaines situations, mais ce n'est pas leur fonction principale. Alors, d'où l'intérêt aussi de s'assurer que les solutions d'IA qui sont développées, bien là, à ce moment-là, elles sont développées dans un but précis d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et c'est ce que les milieux travaillent actuellement. Ils ne vont pas vers des applications généralistes grand public, ils vont beaucoup plus vers des solutions d'IA personnalisées, parfois locales, etc.
Donc, on peut se souvenir que l'intelligence artificielle, c'est un outil à utiliser, à développer, à utiliser à son plein potentiel, mais jamais, jamais ça va remplacer l'infirmière, sa sensibilité, puis son jugement clinique.
Oui, son esprit critique, exactement. Et je vous pose un peu comme question aussi, souvent ce qu'on entend parler, puis je pense certaines de mes collègues là, qui ont 20, 25 ans d'expérience, puis qui disent hey, « moi, là, je suis pas très bonne en informatique. Là. Fait que je connais rien à l'IA. » Quelle position, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces personnes-là?
C'est la même chose avec n'importe quelle nouvelle technique de soins, n'importe quel nouvel outil qu'on utilise, un nouveau moniteur cardiaque, par exemple. Bien, avant le nouveau moniteur, je n'étais pas capable d'utiliser ce genre de moniteur-là tant qu'on ne me l'avait pas montré. C'est un peu la même chose. On a cette responsabilité-là comme infirmier infirmière de le mentionner quand on n'est pas au courant comment ça fonctionne, quand on a besoin d'aide, besoin de soutien, de justement pas utiliser ces outils-là aveuglément sans trop savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est la même chose si vous n'êtes pas formé, par exemple, pour faire une technique de soins, vous n'allez pas la faire aveuglément. C'est la même chose avec l'utilisation de l'IA. Si je ne suis pas formé, si je ne sais pas comment l'utiliser, je vais poser des questions. Donc, super important, poser des questions puis garder en tête que ce que vous apportez au final, c'est l'expertise clinique. Ce n'est pas une expertise informatique. Vous, vous êtes des experts du plancher, vous êtes des experts des patients, vous n'êtes pas des experts informatiques. Quand on garde ça en tête, ça nous rassure puis ça nous rappelle que ah, ben, notre rôle, là, c'est de soigner des gens. Ce n'est pas de développer des programmes informatiques.
Merci beaucoup. Donc, pour ce partage.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Donc, le quoi de neuf de la DSI concerne, sans contredit, l'ouverture officielle ce 22 février 26 du nouveau pavillon Enfants-Soleil-Urgence. Donc, qui en a pas entendu parler? Alors, l'objectif principal du projet, c'est améliorer l'accès aux services d'urgence au CHUS Fleurimont et répondre plus adéquatement à la demande de soins et services, donc en lien avec l'augmentation des naissances, les besoins aussi des bébés prématurés et des demandes de consultation en pédiatrie et pédopsychiatrie. Donc, l'ouverture du nouveau pavillon, ça représente sans aucun doute une étape importante puis porteuse aussi pour l'organisation, mais ça l'amène aussi son lot de changements concrets peut-être dans votre quotidien. On sait que ces ajustements peuvent parfois bousculer vos repères ou encore transformer vos façons de travailler puis vous demander une grande capacité d'adaptation. Donc, dans cette période de transition, je vous invite à être indulgent envers vous-même. Chaque nouveauté demande du temps pour s'intégrer, c'est parfaitement normal. Permettez-vous d'apprendre à votre rythme, respirer, demander de l'aide aux besoins et surtout, laissez au temps le temps de faire son œuvre.
Messieurs, donc, on comprend mieux maintenant l'intelligence artificielle, comment ça peut être utilisé dans les soins infirmiers. Mais là, je vous lance la question, c'est quoi la suite?
Bien, la suite, c'est que ces outils-là vont arriver dans nos milieux. Donc, ils sont en développement, mais ils vont être en implantation également sous peu. Et moi, le message que je voudrais lancer, c'est que les infirmières auxiliaires doivent s'impliquer dans le développement et l'implantation de ces outils-là, justement. Même, comme on vient de dire, si elles ne sont pas expertes en informatique, ce n'est pas grave. Participez au comité, participez au groupe de travail, les consultations, exprimez vos inquiétudes, elles sont évidemment légitimes. Vous pouvez toujours poser des questions, comment ça fonctionne, sur quelles données, justement, ces outils-là ont été entraînés, comment, moi, ça va changer mon travail, qu'est-ce qui se passe si l'IA se trompe. Toutes ces questions-là sont légitimes. Et en participant à toutes ces initiatives-là, bien, vous allez contribuer à ce que les réutilisations demeurent sécuritaires, demeurent éthiques, mais demeurent aussi cliniquement pertinents pour vous, comme infirmière, dans votre travail quotidien.
Charles, William, un immense merci pour votre présence.
Merci pour l'invitation.
Merci.
La pratique infirmière en gériatrie ne concerne pas uniquement que le travail en hébergement. Comme professionnels, nous avons tous à développer nos compétences et connaissances auprès de cette clientèle. Dans le prochain épisode, nous accueillerons en studio deux experts dans ce domaine pour en discuter avec nous. Restez à l'écoute. Voici ce qui conclut ce balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrie-Chu, Savoir et Stéthoscope. À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrie-Chu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.